Apprendre les langues avec podcast, un service de l'école Club Migros. Ce podcast en français s'adresse aux étudiants à partir du niveau A2-B1. Pour toute information supplémentaire, consultez notre site internet www.podclub.ch.
Bonjour, nous sommes le 19 juin 2015 et vous écoutez le podcast « La vie de Marie ». Aujourd'hui, je vous invite à nous asseoir dans un petit bistrot et autour d'un verre, on parlera de l'avenir des cafés et de créateurs de robes de mariée. Les bistrotiers, c'est-à-dire les patrons de bistrots, sont de moins en moins nombreux à servir des petits noirs, le nom que l'on donne en France aux petits cafés. Ils sont par contre de plus en plus nombreux à broyer du noir, à déprimer. Pensez donc, 6000 cafés disparaissent chaque année en France. Ceux qui veulent survivre, continuer à vivre de leur métier, doivent songer à trouver de nouvelles formules. Bref, le secteur des petits cafés est en pleine mutation. Autrefois, chaque village avait un, voire plusieurs cafés. Dans le mien, par exemple, dans un petit village de 240 et quelques âmes, il y en avait trois. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un, et celui-ci s'est plutôt transformé en restaurant. Dans chaque village de France, il y avait son église, son école et son bistrot. C'était de véritables lieux de rencontre, de réunion. Les petits vieux y passaient leur journée, d'autres y passaient plusieurs fois dans la journée, les jeunes y jouaient au baby-foot le soir. À n'importe quelle heure de la journée, on y croisait un client. Dans les cafés, on discutait de politique, de tout et de rien, on refaisait le monde. Aujourd'hui, les écoles ferment, les églises se vident et les cafés disparaissent. En 1910, il y avait 510 000 cafés pour 42 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en reste 60 000 pour 58 millions d'habitants. Les bistrots sont sans doute victimes de l'évolution de la société. L'avènement de la télévision, le développement des loisirs font que les gens vont de moins en moins dans les cafés. Et l'arrivée d'Internet, avec les réseaux sociaux, font que les gens restent devant leur petit écran d'ordinateur ou de téléphone portable. Au lieu de discuter avec des voisins de comptoir, on communique, ou du moins en a-t-on l'impression, avec la planète entière. Ensuite, il y a la crise économique. Les gens ont quitté les villages pour trouver du travail près des villes. Les bistrots de campagne ont fermé. Certains pensent aussi que le développement de la grande distribution a provoqué ces changements. On peut aujourd'hui consommer de l'alcool chez soi, pour bien moins cher. Et la mise en vente de machines à café, dont je ne citerai pas le nom, permet à chacun de boire du bon café. Il y a cependant encore une troisième grande raison. Celle-ci est politique. Depuis l'après-guerre, l'État ne cesse de partir en guerre contre la consommation d'alcool. Et les bistrots trinquent. Il y a eu en 1970 la mise en place de l'alcotest, puis la loi Evin contre la publicité sur l'alcool. Et aujourd'hui, la tolérance d'alcoolémie est de 0,5 g. Et selon sa morphologie, en moyenne, deux verres suffisent pour avoir son permis de conduire retiré. Une autre loi qui prive les bistrots de leurs habitués, c'est la loi anti-tabac. Beaucoup faisaient leur pause dans les bistrots pour boire un petit café et fumer leurs cigarettes. Les habitudes ont dû être changées. Et c'est une nouvelle génération de bistrots qui voit le jour. En France, 15% des cafés se sont reconvertis en bars à thème. Bar à bière, bar à vin, à cocktail, les cafés littéraires, les cybercafés, les cafés-concerts, les décorations ont changé, les concepts ont changé et le prix du café a augmenté. C'est fou comme les choses bougent de manière imprévue dans une vie. Si on m'avait dit un jour que j'allais me marier, oh là là, ce que j'aurais ri. Eh bien, je ne ris plus. Enfin si, mais de bonheur. Une fois la demande faite, voilà qu'il faut organiser le jour J. Et c'est une aventure en soi. L'endroit de la fête a été très rapidement décidé. Ce sera au bord de la rivière. Mais ensuite, il faut décider qui on invitera. Bien sûr qu'on a envie d'inviter toutes les personnes qui ont compté et qui comptent pour nous. Mais très vite, il y a un détail qui prend de plus en plus de l'importance. C'est le budget. Car il faut à boire, à manger, il faut une tente, car si bien même on dit « mariage pluvieux, mariage heureux », il faut penser à un abri en cas d'intempérie. Je veux bien faire l'économie d'un coiffeur, d'un maquilleur, d'un DJ. La décoration, je la fais moi-même. Mais il y a les alliances et il y a la robe. Ah, la robe de mariée. Vous en conviendrez, c'est essentiel. C'est que j'en ai passé du temps sur Internet pour en trouver une. Je savais ce que je voulais. Ne pas ressembler à une meringue. Oui, vous savez, ces robes de mariée dans lesquelles on ressemble effectivement à une meringue, ce dessert à base de blanc d'œuf. Mon choix revenait toujours vers la même créatrice, Delphine Manivet. J'ai peut-être du goût, mais pas forcément les moyens financiers. Je n'allais pas mettre 4 500 € dans une robe de mariée tout de même. Je n'épouse pas le prince Harry, bien trop jeune, ni le prince Carl-Philippe de Suède. Alors j'ai pensé me la faire faire par une couturière. J'ai fait un modèle avec du papier de soie pour avoir une idée de ce que je voulais. Sur Internet, je trouve une couturière, une parisienne. Oh, je ne l'ai pas choisie par mondanité, mais parce que ses créations me plaisaient. Elle avait l'air sympa. Lors de notre premier rendez-vous sur FaceTime. Elle me conseille d'aller essayer des robes qui me plaisaient. Moi, la provinciale, je n'avais pas eu l'idée ni le courage d'entrer dans la boutique très chic de ma créatrice préférée dont les robes représentaient presque 4 mois de salaire. Si, si, allez-y, cela se fait. Aurais-je encore un rendez-vous ? Mes recherches sur Internet m'ont appris que pour certains créateurs, il fallait prendre rendez-vous 1 an plus tôt pour avoir la chance d'essayer les robes. Mais moi, il y a 1 an, je ne savais même pas que j'allais me marier. J'insiste un peu et j'obtiens le laissez-passer pour la boutique. Me voilà donc à Paris, dans la boutique de Delphine Manivet, située derrière les Champs-Élysées. L'endroit est beau. Clair, sobre. Au fond du magasin, il y a un petit boudoir, avec un canapé blanc, une petite table et une grande cabine d'essayage. Et avec toutes ces robes, Dieu qu'elles sont belles! La vendeuse entre avec moi dans la cabine. Je me sens telle une reine avec son habilleuse. Le tissu est magnifique, le tombé incroyable. J'enfile des chaussures et je sors me regarder dans une glace. Je suis tout émue de me voir en blanc, dans cet homme magnifique. J'étais une mariée. Mais bon, je n'épouse pas de prince, alors je retrouve la rue et vais rencontrer ma couturière et nous discutons du modèle. De retour en Alsace, j'ai un projet de robe. Une bonne chose de faite. La robe sera toute simple. Mais si la robe est simple, les détails sont importants. Nous avons encore, avec ma couturière, 2 échanges par mail dans lesquels je précise mes souhaits avec des photos. Et puis un jour, 1 mois plus tard, c'était avril, elle m'envoie un mail et m'expliquait que, vu la distance, blablabla, il était préférable que je trouve quelqu'un d'autre qui me fasse la robe. Et paf ! J'avais pensé avoir réglé cette histoire, et voilà qu'elle me laisse tomber. Ah ça, évidemment, si j'avais été une Parisienne qui travaillait dans un magazine de mode, elle aurait accepté tous mes caprices. Mais évidemment, un petit mariage au fin fond de l'Alsace, entre vaches et chèvres, cela n'allait pas lui faire une réputation. Alors je surfe à nouveau sur le net. Je soupire toujours devant les robes de Delphine Manivet. Et non, toujours pas de prince à l'horizon. Il me faut rester raisonnable. Et voilà que je tombe sur une boutique qui vend des robes de défilé, des robes d'essayage à plus de moitié prix. Le samedi suivant, je suis à Paris, dans le petit salon d'essayage de la boutique qui avait essentiellement des robes de ma créatrice préférée. J'en choisis plusieurs, des sages, des folles, des robes de princesse. J'enfile la première, très jolie. J'enfile la deuxième, ce sera celle-ci. J'essaie les autres, histoire de me faire plaisir, avec de la tulle, de l'organza, mais je savais déjà que mon choix était fait. Ah non, je ne vais pas vous la décrire, cela ne se fait pas. Disons qu'elle a été faite pour moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines sur www.podclub.ch ou sur notre app. Et nous écouterons la suite des aventures de Clara. Je vous parle d'oiseaux et de mon enterrement de vie de jeune fille. À bientôt.
Vous trouvez la version écrite de cet épisode sous www.podclub.ch. À propos, dans les écoles club, vous pouvez commencer un cours de langue à tout moment. Consultez notre site internet et n'hésitez pas à vous inscrire. Nos adresses de site internet sont les suivantes: www.clubschule.ch, www.ecoleclub.ch et www.scuolaclub.ch.